RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac, le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, grand reportage. Aujourd'hui en Égypte, où l'élection présidentielle n'aura pas permis de faire émerger des débats d'idées sur les thèmes importants pour la vie des Égyptiens. L'état de l'éducation publique est très dégradé, soulève pourtant des inquiétudes, des angoisses pour les enfants et pour les parents. Selon les spécialistes, la situation de l'éducation dans le pays est misérable. Le classement international du Forum économique mondial place l'Égypte à la dernière position sur 140 pays pour la qualité des enseignements au niveau primaire et secondaire. Établissement surchargé, 80 à 100 élèves par classe dans certains quartiers, professeurs sous-payés et corrompus, violence en tout genre, les enfants n'apprennent plus rien à l'école. Pour les laisser passer au niveau supérieur, la plupart des professeurs les obligent à s'inscrire aux cours privés qu'ils donnent après la classe, une charge supplémentaire pour les parents qui, pour certains, ne peuvent pas payer. Résultat, 30% des élèves finissent l'école primaire sans savoir lire ou écrire, et ce, dans la deuxième plus importante économie d'Afrique. Le naufrage de l'éducation publique en Égypte, grand reportage signé François Mferkataji.
En octobre dernier, le président égyptien a été reçu en grande pompe à l'Élysée. Aux côtés d'Emmanuel Macron, interrogé en conférence de presse sur les violations des droits humains, il répondait ceci.
Quand on parle de droits de l'homme, ne parlons pas seulement des droits politiques. Pourquoi ne me questionnez-vous pas sur le droit à l'éducation ? En Égypte, nous n'avons pas une bonne éducation, je vous le dis.
Une remarque qui a fait bondir les spécialistes et professionnels de l'éducation en Égypte, qui estiment que c'est précisément en raison du désintérêt de l'État que le système éducatif est si mauvais. En 2015, par exemple, les dépenses d'armement de ce pays de 95 millions d'habitants étaient quasiment égales à celles de l'éducation nationale, soit 6 milliards de dollars. La doctorante en sociologie de l'éducation, Rosoun Taoufik,
S'ils considèrent que l'éducation est une justice sociale et qu'elle doit être accordée à tout le monde, sans conditions financières, alors qu'ils mettent de l'argent pour ça, vous devez créer des budgets, des politiques pour en faire une priorité. Ça va changer en augmentant le salaire des professeurs, ça va changer en réformant les programmes, ça va changer en augmentant le nombre de classes, ça va changer si on laisse un espace à la créativité et à la pensée critique, la liberté d'expression dans l'école. Nous n'avons pas toutes ces choses en Égypte.
Karima, une chercheuse dont la spécialité est l'histoire de l'éducation, refuse de parler sous son vrai nom. Pour elle non plus, le gouvernement ne fait pas de l'éducation des enfants égyptiens une priorité.
On a très clairement expliqué qu'on n'avait pas d'argent pour l'éducation, donc c'est fini, c'est un thème qui a été complètement fermé. Enfin, les hommes politiques ne veulent pas en parler du tout. L'État égyptien n'investit pas du tout dans l'éducation. Si on compare, par exemple, le taux d'investissement dans l'éducation en Égypte avec les autres pays, comme par exemple, le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, etc., la Turquie, on réalise très vite qu'il n'y a pas vraiment, mais il n'y a vraiment pas d'argent qui se met pour réformer le système éducatif.
Pour réaliser ce reportage, RFI n'a pas obtenu l'autorisation de se rendre dans une école publique. Nous n'avons pas non plus reçu de réponse de la part du ministère de l'Éducation. Direction donc un parc du Caire pour parler de ce sujet qui concerne tout le monde. Alors je me trouve dans un petit parc du quartier de Saïda Zainab en ce moment. Il y a des activités pour les enfants, il y a une pelouse, des palmiers, les enfants courent entre les arbres et je vais profiter de ce moment de calme et de détente pour aller parler avec des adolescents et des parents de la question de l'éducation en Égypte. Il y a Mina qui a 17 ans, qui est venue me voir pour me parler. Elle a un vernis à ongles violet, une grande abaya noire avec des motifs turquoises et un voile vert olive. Elle nous a entendu parler d'éducation et elle voulait à son tour réagir sur cette question.
J'ai abandonné l'école après la quatrième. Il y avait beaucoup de négligence. Parfois, les profs ne venaient pas du tout. Parfois, ils venaient, mais ils ne savaient qu'écrire quelques trucs au tableau, et puis ils partaient. Ils ne nous expliquaient pas bien les leçons, on devait prendre des cours privés pour comprendre. J'ai essayé de prendre des cours privés et j'ai mieux compris. Parce qu'à l'école, avec le nombre d'élèves dans la classe et des professeurs qui s'en fichent, c'est impossible. C'est obligatoire de prendre des cours privés avec ton professeur pour être en mesure de comprendre et d'apprendre le programme. Si tu n'as pas les moyens, alors tu ne passes pas la classe supérieure. C'est pour ça que j'ai arrêté. Par exemple, les leçons privées, c'est 4 euros par mois pour 4 leçons. Chaque leçon dure 1 heure ou 1 heure et demie. Là, ils font des efforts pour expliquer, mais à l'école, ça n'arrive jamais.
Et tu aimais l'école? Tu aimais étudier?
J'adorais étudier, je vous le jure, mais je ne pouvais rien faire, c'était trop cher. Mon père est décédé et c'était beaucoup trop cher pour ma mère. C'était mieux d'arrêter.
Ce problème des cours privés gangrène l'éducation nationale égyptienne. Une chercheuse estime que le système éducatif en Égypte a été privatisé de facto. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce que le salaire des professeurs est si bas que ce marché parallèle s'est développé à la sortie de l'école. Pour comprendre les leçons, il faut se payer des cours privés. Et dans certains cas, les professeurs menacent les élèves de les sous-noter s'ils ne s'inscrivent pas à leurs propres cours privés. Rosoun Taoufik et Karima.
Like if we said a starting point from like assistant teacher starting job, the first job, it's like 1,200.
Vous prenez un professeur assistant qui commence, il gagne 60 euros par mois, et c'est parce qu'il y a une loi qui assure depuis peu ce salaire minimum en Égypte. En fin de carrière, un professeur peut gagner maximum 200 euros. Si on met cela en relation avec l'inflation qu'on a ici en Égypte, la dévaluation de la livre, les problèmes économiques que nous avons, eh bien, en fin de compte, ce professeur doit pouvoir vivre. Il a une famille, il a des rêves, il a des obligations dans sa vie. Il doit mener ses projets. Il y a des gens qui disent que c'est problématique, que ce n'est pas éthique de forcer des élèves à prendre des leçons avec eux. Et je suis d'accord avec ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut être fait au final. C'est la seule compétence qu'ils ont, l'enseignement. Ils sont obligés de trouver d'autres sources de revenus. Comment peuvent-ils faire cela? Eh bien, avec les cours privés. Mais encore une fois, c'est créer un fardeau sur les enfants et les familles. Nous n'avons pas l'argent et nous avons l'illusion que l'éducation en Égypte est gratuite. Et non, ce n'est pas gratuit.
En fait, il y a encore un système public et tout ça, mais parce que c'est un système qui, où on ne peut vraiment pas gagner sa vie, alors il y a un marché parallèle privé qui augmente et où je dirais que tout le monde doit aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le choix, ça n'a rien à voir avec si on comprend la matière, on a compris le sujet, tout ça, ça n'a rien à voir avec. C'est, en fait, il faut aller aux leçons privées. L'année du bac, par exemple, le bac égyptien, le Sanawiyam, si au mois de novembre, on voit un étudiant à l'école, les professeurs se demandent pourquoi il est là, et ils lui disent de rentrer à la maison et d'aller plutôt à la leçon privée parce que ça n'a pas de sens. C'est pas là qu'on va apprendre. C'est que les professeurs même lui disent « Rentre chez toi, mais va à la leçon privée, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ils sont là pendant le premier mois pour juste faire pour la forme, pour faire comme si l'année scolaire avait vraiment commencé. Mais quand on a le bac qui arrive dans 9 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, on ne va plus à l'école. Il n'y a pas de sens.
Des classes surchargées, des enseignants mal formés et sous-payés, des cursus inadaptés. Karima souhaite vraiment tirer la sonnette d'alarme sur la situation de l'école publique dans le pays.
C'est un système où vous, comme en tant que journaliste, n'avez pas accès à rentrer à l'école. De quoi on parle là? C'est pas un système qui est ouvert à la culture, c'est rien du tout. C'est un système qui n'a pas d'argent, donc il va pas emmener les enfants dans des musées nécessairement. Il va rien faire. Les professeurs n'ont pas de motivation, ne sont mal payés. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire quoi que ce soit pour évoquer la curiosité des enfants, pour, je sais pas moi, dire des histoires, faire des trucs, tout ça? Il n'y a rien. C'est vraiment la misère. C'est la misère absolue. Non, vraiment, les écoles, c'est la misère absolue.
Je
Je me trouve dans le quartier de Sept El Laban. C'est ce qu'on appelle un quartier informel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan d'urbanisme. Les immeubles se sont construits les uns après les autres de façon un peu anarchique. Alors il faut s'imaginer ce quartier, hein. C'est beaucoup de trafic, des toutes petites rues dans lesquelles des motos, des tuk-tuk, parfois des charrettes tirées par des ânes ou des chevaux passent. Il y a beaucoup de marchands ambulants qui vendent des fruits ou bien des vêtements. Et en face de moi, il y a deux autoponts, donc une sorte de rocade. C'est pour ça qu'on entend beaucoup la circulation. Cette rocade, elle fait tout le tour du quartier. Alors si je suis venu ici, c'est parce que je me rends dans un établissement un peu particulier. Ça s'appelle Mish Madressa. C'est pas l'école en arabe, c'est une initiative prise par une famille du quartier pour offrir gratuitement des cours de soutien à des élèves du quartier qui ont été sélectionnés en fonction de leur motivation. La famille a réussi à trouver des fonds pour développer cette initiative et donc on va aller parler aux élèves de cette école un peu particulière pour leur demander pourquoi ils sont motivés à venir prendre des cours après leur propre école, après l'école publique. Donc voilà, je me trouve désormais dans l'école Mish Madressa. Shukran, madame.
Hello! Square dancing, please. Square dancing. Very good, square dancing.
Les élèves sont attentifs, le professeur utilise toutes sortes d'accessoires pour leur faire comprendre ce qu'il raconte. Il n'a décidé de ne parler qu'en anglais. Après les leçons, nous rencontrons deux jeunes adolescents, l'un à 13 ans, l'autre 14. Ils portent tous les deux un polo bleu aux couleurs de l'ONG.
La différence entre ici et l'école, c'est qu'ici, je viens parce que j'adore la façon d'apprendre. J'en profite pour apprendre plein de nouvelles choses, avec des professeurs qui donnent des cours avec empathie. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils font de leur mieux pour être sûr qu'on comprenne bien et qu'on ne s'ennuie pas. Quand on vient ici, on prend une pause toutes les deux heures. Et après, on a la possibilité de discuter entre nous. Il y a vraiment une bonne ambiance.
Mais à l'école, c'est vraiment dur, fatigant, épuisant. C'est pour ça qu'on essaye de prendre du temps pour venir ici. On aime apprendre ici.
L'ambiance est tendue car il y a des professeurs qui nous insultent et disent des grossièretés. Il y a des professeurs qui nous frappent. Et la même chose se passe entre élèves dans la classe. Ils se battent tout le temps, tout le temps.
Celui qui se pointe en retard à l'école ou qui oublie son livre ou quelque chose comme ça, il va être puni. Par exemple, aujourd'hui, un élève est arrivé en retard. Le professeur les a punis et les a marqués absents pour toute la journée. Et si tu arrives encore en retard, c'est l'assistant du professeur qui te frappe avec un bâton. Il frappe tous ceux qui sont en retard. Le professeur aussi frappe.
Toute une famille très connue dans le quartier est aux commandes de cette anti-école. Anhar El Sefi explique qu'il est urgent de trouver des moyens pour proposer une éducation différente de l'école publique, un environnement violent pour les élèves, dit-elle.
Ce sont des enfants qui viennent de familles qui n'ont absolument pas d'argent pour l'éducation. On leur apprend comment considérer l'école. On revient sur la lecture, l'écriture. On essaye aussi de leur éviter le fardeau des cours privés. Et en même temps, on essaye de corriger leurs problèmes de comportement pour qu'ils puissent grandir dans le respect commun. Comment se comporter avec ses camarades ? Arrêter la violence, arrêter de s'agresser les uns les autres, de s'insulter. C'est surtout ça notre volonté, de leur dire « ne soyez pas violents, ne frappez pas, ne harcelez pas. Regardez les filles comme si c'était vos sœurs et les garçons vos frères. »
Son neveu, Abdel Halim, encadre aussi toutes les sessions, le dimanche soir, le jeudi soir et un vendredi par mois.
Oui, on aimerait vraiment que Mish Madressa puisse se développer et s'étendre à d'autres quartiers. Je crois que si une personne met en place cette idée dans chaque quartier, on aura une génération différente. Si vous aviez vu le petit Salah il y a quelques années, avant qu'on commence, il traînait dans la rue avec un couteau à la main et une chaîne en argent autour du cou. Il est venu chez nous, comme ça, et puis il a changé.
Damiena a 17 ans, c'est l'une des plus âgées du groupe. Elle rêve de devenir dentiste et d'étudier à l'étranger pour pouvoir mieux revenir en Égypte par la suite.
Ici, on se parle. À l'école, on n'a tout simplement pas ça. Le professeur parle, arrête de parler et s'en va. Mais ici, on parle. On a la chance de développer notre confiance en soi. On sait comment se comporter avec les autres et on sait qu'on peut réussir. Dans le quartier, nous sommes pauvres, très pauvres. Alors, quand j'aurai une bonne éducation, je vais enseigner pour les autres, gratuitement. Parce qu'ici, personne ne peut payer quoi que ce soit. Il n'y a rien au monde qui peut vous aider plus que l'éducation. Quand quelqu'un n'est pas éduqué, la société le rejette. Ils ne comprennent pas comment le monde fonctionne.
Tous les jours, à 7h30 du matin, l'hymne national retentit dans les établissements scolaires et les enfants saluent le drapeau égyptien. Ici, les tambours sont même de sortie dans cette école du quartier de Zamalek. C'est la seule chose qui est parfaitement contrôlée, remarque Rossoum Taoufik, qui dénonce des programmes ultranationalistes. Depuis peu, une directive ministérielle oblige les enfants à chanter tous les jours un chant nationaliste pro-armé et également à la gloire des martyrs tombés dans les combats contre les terroristes du Nord Sinaï. « 48 heures après la décision du ministère, ce rituel était mis en place dans toutes les écoles du pays. Le ministère, parfois accusé d'immobilisme, a pourtant écrit un très gros rapport pour transformer l'école égyptienne d'ici 2030. Mais pour cela, il faut de l'argent. Et la dernière sortie du président de la République au sujet de l'école ne semble pas aller dans ce sens. Alors que la Constitution est censée garantir une éducation gratuite et indique que 4% du PIB doivent être consacrés aux dépenses pour l'éducation, le président s'est exprimé de façon mystérieuse dans une récente émission de télévision.
Pour faire une éducation gratuite, une école maternelle de qualité, c'est inscrit dans la Constitution, mais c'est un obstacle, c'est un gros problème. Et puis, pour combien d'enfants? Pour un? Pour deux? Si quelqu'un ne fait pas son travail à l'école, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le faire payer? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais nous allons lancer notre projet l'année prochaine. C'est un projet qui va prendre 14 ans et nous ne verrons pas de résultats positifs avant ce temps-là.
Pendant tout ce temps, le système éducatif égyptien à la dérive et dépassé ne permettra pas aux élèves de s'épanouir, encore moins de passer d'une classe sociale à l'autre, en fonction de leurs mérites. Le système reflète comme un miroir les immenses inégalités économiques qui demeurent dans le pays. Les plus aisés fuient sans hésitation le système public pour intégrer des écoles internationales privées, dont l'année coûte jusqu'à 5000 euros par an. Le naufrage de l'éducation publique en Égypte, un grand reportage de François Imfer Kataji, réalisation Pierre Chavangeon.
اللي دابوا قالوا فيه احلى كلام واللي شافوا قالوا قالوا نار وعلام اللي دابوا قالوا فيه احلى كلام واللي قالوا قالوا نار وعلام اما انا لا لا استحاله لا لا قلبي خالي بالي خال باللي بيا راضي حالي وبيحلالي اما انا لا لا استحاله لا لا قلبي خالي بالي هادي حالي وبيحلالي.